RFI.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$30.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilac.
Mirao.
Pour la stupeur et la colère après l'annonce de la naissance de bébés OGM en Chine. Matei Vichnieg, de la rédaction roumaine.
Bonsoir.
À propos du lancement de la saison France-Roumanie 2019, qui coïncide avec la présidence roumaine de l'Union Européenne à partir du 1er janvier. Et Raphaël Moran.
Buenas noches.
De la rédaction en espagnol, pour l'arrivée de la 3G sur les téléphones portables des Cubains. Bonsoir à vous tous. Mais avant tout cela, intéressons-nous à l'une des principales actualité de la semaine encore en France, à savoir ce mouvement des contestations, voire de rébellion des Gilets jaunes. Nouvelle journée de mobilisation ce samedi. Raphaël, des précautions sont prises. La presse latino-américaine a largement relayé, notamment les fermetures de musées dans la capitale française.
Oui, dès que les symboles de Paris sont touchés, ça impressionne beaucoup toujours la presse à l'étranger. Donc après les violences et les dégradations de samedi dernier, la crainte d'autres affrontements et d'autres actes de vandalisme ce week-end ont poussé les grands musées de la capitale française à baisser le rideau. On rappelle que l'Arc de Triomphe et les catacombes avaient été touchés par des destructions la semaine dernière. Du coup, le Louvre, le musée d'Orsay, le musée de l'Homme et le Grand Palais ne reçoivent pas de public ce samedi. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait part de son immense tristesse face à une ville qu'elle a qualifiée de « en arrêt ». Mais les précautions de sécurité l'ont emporté. Des spectacles sont également annulés. Les opéras de Paris, les grands théâtres situés près des Champs-Élysées annulent leur représentation. Des marchés aussi, des marchés alimentaires sont déprogrammés.
Oui, puisqu'on parle de commerce, il y a aussi les grands magasins qui sont touchés à l'approche des fêtes de Noël, là où ils réalisent une part conséquente de leur chiffre d'affaires.
Oui.
Et puis des événements sportifs sont également annulés.
Oui, 6 matchs de la Ligue 1 de football sont reportés, comme Paris-Montpellier. Même décision dans d'autres villes de France. Et l'événement caritatif du Téléthon, un événement annuel qui devait se tenir place de la Concorde et rapatrier dans des studios de télévision.
Et l'impact de ce mouvement des Gilets jaunes, Raphaël, se fait sentir dans d'autres secteurs.
Oui, comme le commerce de détail, la distribution alimentaire, mais aussi les sociétés d'autoroutes sont touchées par les conséquences de cette mobilisation. L'impact le plus fort se fait sentir dans l'hôtellerie et la restauration. La Fédération hôtelière française parle de 35 000 nuits d'hôtel annulées. Et la baisse des chiffres d'affaires dans la restauration atteint parfois 50% par rapport à des jours sans manifestation. Le ministère français de l'économie a proposé aux entreprises qui sont touchées de recourir soit au chômage partiel, soit de demander des ouvertures spéciales le dimanche, ouvertures exceptionnelles qui leur seront accordées pour compenser les pertes.
Et vous le disiez, ce qui se passe à Paris intéresse dans le monde entier, notamment les images qu'on voit sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. La presse chinoise, Hermine Roumilac, se fait l'écho de ces scènes de violence. Et les images choquent.
Oui, et mes amis en Chine s'inquiètent beaucoup déjà pour la sécurité pour nous. Et si on regarde bien les réactions dans l'opinion chinoise, il y a deux grandes tendances. D'abord, ceux qui expriment leur incompréhension et indignation face à ces scènes de violence dans les rues de Paris et ailleurs, puisque Paris, c'est quand même une des villes les plus appréciées par les Chinois et la ville la plus romantique du monde, selon les Chinois. Donc, ils trouvent que c'est vraiment regrettable d'en arriver là. Ensuite, il y en a qui connaissent un peu l'histoire de la France et de Paris, montrent plus de compréhension, puisque pour eux, la Révolution française et le mouvement du mai 68 ont déjà montré que les Français sont des révolutionnaires qui aiment régler leurs désaccords avec les dirigeants dans les rues. Selon eux, les mouvements populaires rendront plus forte la France à suivre.
Matei Vichnieg, dans vos émissions en langue roumaine, vous avez expliqué les raisons profondes de ces mécontentements, puisque ça a fait tache d'huile.
Oui, cela peut paraître un cliché, mais partout dans la presse européenne et même dans la presse française, on parle d'une culture de la contestation qui est typiquement française. J'ai cité par exemple un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean-Robert Pitt, qui dit « Un mouvement comme les Gilets jaunes n'aurait pu pas advenir ailleurs que dans notre pays ». Un pays où, selon le même expert, on a créé un État-providence sans équivalent, malgré le fait qu'il les dépense souvent comme une affaire sociale. Ce n'est pas facile, je vous assure, d'expliquer pour un public de l'Europe de l'Est pourquoi une ville comme Paris, qui symbolise par excellence la culture et même le romantisme, comme en Chine, peut devenir donc une ville comme Paris, le théâtre des violences aveugles et des déchaînements de haine. J'évoquais donc la longue liste, moi aussi donc, des révoltes paysannes et urbaines en France à partir du Moyen-Âge, avec un accent sur la série de révoltes et des révolutions tout au long du 19e siècle. L'histoire de la France a toujours fasciné l'Europe de l'Est. Peut-être parce que la France a été toujours vue comme le cœur de l'Europe, mais les images de violence sur Champs-Élysées ailleurs font plutôt peur en ce moment et inquiètent l'Europe.
Alors l'Europe, justement, Mattei, elle regarde tout cela avec beaucoup d'attention, également avec beaucoup d'inquiétude.
L'Union européenne est déjà fragilisée par le Brexit, par l'affaiblissement politique d'Angela Merkel, par l'offensive des forces populistes et extrémistes. Dans cette Europe divisée, inquiète, séquée par des crises à répétition, le président Emmanuel Macron s'est présenté il y a un an et demi comme un leader confiant, fort, ayant une majorité parlementaire et des idées salvatrices. Mais lui-même avait conditionné sa crédibilité en tant que leader européen de la réussite de ses réformes en France. Or, en ce moment, c'est évident qu'il doit reculer sur certaines réformes et que sa voix sur le plan international n'a plus la même résonance. J'ai cité un article paru dans l'Obs, France is not back, un article signé par Pierre Aski, qui évoque la période où Emmanuel Macron proposait à la Sorbonne un vrai projet pour l'Europe. Il avait prononcé alors cette phrase « France is back ». Un grand pari de Macron, les élections européennes en mai l'année prochaine deviennent plus difficiles à gagner maintenant. Et puis il y a l'aspect économique. Est-ce que la France pourra encore respecter la règle de 3% du déficit budgétaire imposé par l'Europe? Difficile, très difficile pour Emmanuel Macron d'incarner maintenant le progressisme face au camp nationaliste en Europe.
Hermine Roumilhac, est-ce qu'il y a des événements similaires en Chine, aujourd'hui non, mais dans le passé récent.
Dans le passé, oui, si on ose un petit peu la comparaison, on pourrait trouver un peu de similitude dans les mouvements de gilets jaunes avec le mouvement démocratique des étudiants chinois de 1989, donc printemps de Pékin. En fait, les deux mouvements ont eu un événement déclencheur, surpris. Pour les gilets jaunes, c'est l'annonce de hausse de taxes de carburant en Chine. C'était la mort d'un ancien premier ministre réformateur, limogé 2 ans après.
Ah, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, monsieur, c'est pas la même chose. Ensuite, les deux mouvements ont été résultats d'accumulation des revendications et des mécontentements. En France, dans les revendications des gilets jaunes, on sent le sillage de plus en plus profond entre les riches et les classes moyennes et classes populaires. En Chine, c'était une aspiration vers une société plus libre, plus démocratique, après 40 ans de mouvements politiques et sociaux. Mais il faut que je souligne que le mouvement démocratique Tiananmen n'a pas eu de scène de violence comme ce qu'on a vu à Paris, dans la rue de Paris. Et malgré le gouvernement qu'il a qualifié de trouble l'ordre public ou des émeutes.
Mathieu Vichniec, pareil, même question concernant la Roumanie, ces mouvements de contestation populaire. Est-ce que les gilets jaunes pourraient inspirer les Roumains?
Apparemment, les gilets jaunes ont déjà fait quelques émules en Bulgarie et en Serbie, mais en ce qui concerne la Roumanie, presque tous les mouvements de protestation ces dernières années ont visé la corruption et les tentatives de pouvoir de limiter l'indépendance de la justice. Il y a eu des heurts avec la police, mais on n'a jamais eu en Roumanie ce phénomène des casseurs. Disons que dans les pays de l'Europe de l'Est, ultra-gauche n'est pas très visible, ni les mouvements anarchistes. Depuis la chute du communisme, les capitales des pays de l'Europe de l'Est n'ont jamais connu des violences et des dégradations comme cela a été le cas à Paris. Je crois que tout simplement l'opinion publique n'est pas prête à tolérer de tels débordements dans une capitale comme Bucarest, déjà éprouvée par le génie constructeur du président Ceausescu. C'est peut-être un paradoxe, mais dans une capitale déjà cassée par un tremblement de terre, par 50 ans du communisme et par les caprices d'un dictateur, la tolérance pour des nouveaux casseurs est plutôt zéro.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Il y avait des plantes OGM, maintenant il y a des bébés OGM. Deux bébés génétiquement modifiés seraient nés en Chine. Hermine Roumilhac, cela a provoqué un choc et, disons-le, un tollé général.
Oui, beaucoup de colère, indignation et condamnation. En fait, cette nouvelle a été révélée d'abord par AP, Associated Press, le 27 novembre, la veille du second sommet international sur l'édition des génomes. Le scientifique qui a dirigé le projet, le chinois, Monsieur He Jianhui, l'a confirmé ensuite dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il a dit que les deux bébés filles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus de SIDA sont nées début novembre. Le père de ces deux filles est infecté du virus de SIDA. Pour l'instant, il n'y a pas encore de confirmation officielle, ni celle des autres scientifiques dans ce domaine. Si c'est avéré, il s'agirait donc des deux premiers humains nés avec des gènes modifiés. En fait, le chercheur essaie d'expliquer ses motivations dans cette vidéo.
Gene surgery is and should remain a technology for healing, enhancing IQ or selecting higher.
Que dit ce professeur, ce chercheur?
En fait, il a dit que c'est une technique pour soigner. Il pense que les parents responsables ne vont jamais les utiliser pour changer les couleurs ou les des cheveux ou des yeux des bébés. Et puis il dit que il sait que son travail allait provoquer des polémiques, mais il est convaincu qu'il y a des familles qui ont besoin de cette technologie, donc il est prêt à recevoir des critiques pour ces familles-là.
Alors justement, ces critiques, pourquoi est-ce qu'elles sont si nombreuses?
Cela pose d'abord le problème d'éthique, comme tout le monde le sait. Ensuite, plusieurs raisons ont été avancées. On ne connaît pas les conséquences d'une telle modification génétique chez l'être humain. D'autant que celle-ci va se transmettre aux descendants des deux enfants. Cela pourrait, dans le futur, soi-disant, polluer les gènes collectifs d'Homo sapiens. D'ailleurs, on ne sait pas si cela n'entraîne pas d'autres problèmes, comme le cancer pour les deux filles. Alors, pourquoi choisir utiliser cette technologie qui n'a jamais été testée chez l'être humain? Peut-être on trouvera la raison dans le financier, parce que ADN, en fait, c'est un marché potentiel très, très prometteur pour l'instant.
Donc, il y a quand même de nobles intentions. Pourquoi est-ce que cette nouvelle a provoqué la curiosité et ou la stupeur chez les Chinois, Hermine?
En fait, d'abord, du côté des autorités, le journal du peuple a d'abord crié victoire en disant que la naissance de ces bébés soi-disant OGM, montre que la Chine se trouve désormais au sommet des recherches dans le domaine de génome. Mais quelques heures seulement plus tard, la situation a totalement tourné contre les scientifiques. Tout le monde le condamne. Personne semble être au courant de ces recherches. Et en plus, les enquêtes ont été lancées par les autorités chinoises pour savoir si cela était égal. Toutes ces recherches sont suspendus pour l'instant. Et de côté de l'opinion publique, c'est encore partagé. Il y en a qui félicitent tout de même de ce succès. Ils voient un avenir meilleur pour l'humanité. Pour eux, consacrer la vie des deux bébés vaut bien la peine puisque cette idée, c'est bien pour l'humanité. Mais cette idée est critiquée par d'autres Chinois, comme rapporte notre correspondante en Chine, Madame Sang Yu. On peut écouter un petit morceau. L'analyste d'un blogueur chinois, il dit « Les Chinois sont passionnés du collectivisme. Ils sont habitués à se consacrer leur vie pour la cause collective. Mais quand on méprise le petit moi, comment peut-on parler du droit de la vie? Et si nous ne pouvons pas protéger le droit individuel, comment on peut parler de la protection de tout le monde ?»
Hermine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. Une autre révolution, une petite révolution, celle-là à Cuba. Depuis hier, la 3G est arrivée sur l'île, sachant que Cuba est l'un des pays les plus en retard en matière de connexion Internet. Raphaël Moran de la rédaction Amérique Latine de RFI, racontez-nous cela.
Oui, l'accès à Internet à Cuba a toujours été très limité, très compliqué. Jusqu'en 2012, il était tout simplement quasiment impossible de surfer sur Internet à Cuba à cause de l'embargo américain et aussi à cause du manque de volonté des autorités politiques. Cuba n'était relié au reste du monde que par des connexions Internet satellitaires. Et donc se connecter à Internet était extrêmement cher. Pendant plusieurs années, ça coûtait aux alentours de 5 euros de l'heure pour accéder à Internet à Cuba. Et il y avait en plus très peu de points d'accès, uniquement dans les grands hôtels par exemple. Alors les choses sont un peu améliorées avec l'installation d'un câble sous-marin de fibre optique depuis le Venezuela, les pays alliés de Cuba. Mais ce n'était pas suffisant. Le gouvernement a donc installé des points d'accès Wi-Fi dans l'île ces dernières années, dans les espaces publics comme dans les parcs. Mais le service est toujours très lent, très saturé. On y accède moyennant 1 euro de l'heure en achetant une carte à la Compagnie nationale de télécommunications cubaine.
Et ça veut dire que se connecter à Internet à Cuba reste très très cher encore aujourd'hui.
Oui, les connexions individuelles à domicile ont longtemps été réservées aux professionnels. professionnels, comme les diplomates par exemple. Et le service a été étendu, mais aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers de personnes à Cuba qui ont Internet chez eux. L'abonnement coûte environ 15 euros par mois, c'est-à-dire la moitié d'un salaire minimum. Alors depuis hier, c'est ce qu'on disait au début, les Cubains peuvent enfin surfer sur Internet depuis leur téléphone portable, sans se tenir à proximité, sans être à proximité d'un point Wi-Fi. La mesure suscite énormément d'enthousiasme dans ce pays où beaucoup de gens ont de la famille à l'étranger. Hein. Il y a 2 millions de Cubains à l'extérieur. Mais là encore, les prix d'un abonnement en 3G restent très élevés. C'est ce que nous explique l'économiste cubain Omar Everleni. On l'écoute.
Solo van a tener acceso a Internet.
Quelle est son explication?
Alors, il nous explique que les seules personnes qui auront accès à la 3G à Cuba sur leur téléphone sont les gens qui arrivent à se procurer cette monnaie CUC, les pesos convertibles. Donc, la mesure va en fait exclure beaucoup de monde, car il faudra payer pour l'abonnement maximum 30 dollars, ce qui équivaut à un mois de salaire à Cuba. Rappelons que l'île fonctionne toujours avec ce système de double monnaie très étrange. Hein. D'une part, le peso cubain et d'autre part, le peso convertible, difficile à trouver, qui sert pour les échanges avec l'étranger, pour les touristes et qui finalement est la seule manière d'acheter des biens à l'étranger et notamment de se payer un abonnement Internet.
Cuba qui s'ouvre donc toujours un peu plus à l'Occident.
Progressivement.
Là, on le voit par Internet. Rafael Morane de la rédaction hispanophone de RFI. Quant à la Roumanie, elle va assurer pour la première fois depuis son intégration européenne en 2007 la présidence tournante de l'UE. Ce sera à partir du 1er janvier qui vient. Mais a déjà commencé la saison culturelle France-Roumanie 2019. Matej Wiśniewski, il s'agit de montrer, de renforcer les liens entre les deux pays.
Pour les Roumains, il s'agit d'un moment particulier de leurs histoires car l'État roumain unitaire moderne est né en 1918 après la Première Guerre mondiale. On peut dire que la France a associé la Roumanie à sa victoire en 1918, mais les Roumains ont payé aussi un prix terrible lors de la guerre à côté des Alliés. 800 000 morts, 10% de la population, c'est le bilan de la Première Guerre mondiale pour les Roumains. Le 27 novembre, le président français Emmanuel Macron et le président roumain Klaus Iohannis ont inauguré la saison France-Roumanie.
Et la Radio France Internationale, RFI, est un média partenaire de cette manifestation qui a deux volets.
Oui, la présence de la culture roumaine en France pendant 8 mois et à partir de juin 2019, la présence de la culture française en Roumanie. C'est la première saison culturelle croisée que la France organise avec un pays de l'Union Européenne. Écoutons ce jingle qui dit « Oubliez les clichés, RFI vous tient connecté à la saison France-Roumanie et vous propose d'autres manières d'aborder les deux pays ».
Uitați de clișee. RFI vă ține conectați la sezonul Franța-România și vă propune abordări noi.
Alors cette saison France-Roumanie a comme devise oubliez vos clichés. D'ailleurs sur l'affiche de la saison, il y a deux images, hein. Edith Piaf dans les bras du comte Dracula et Napoléon aux côtés de Maria Tanas qui est une chanteuse très populaire en Roumanie, Matej. Hein.
Oui, les clichés parfois une fois posés, fixés, pérennisés, les clichés empêchent en effet une meilleure connaissance de l'autre. C'est valable pour la France, mais avec cette mention que la France bénéficie de beaucoup de clichés positifs. Elle est le pays des droits de l'homme, de la culture par excellence, de l'art de vivre, de la bohème littéraire artistique, de Napoléon et de Victor Hugo, ainsi de suite. Quant à la Roumanie, parfois mal connue ou méconnue, son nom véhicule aussi des clichés. On dit Roumanie, on dit Ceausescu, Dracula, parfois Nadia Comăneci. Est-ce que vous vous rappelez de la gymnaste roumaine des années 70?
Absolument.
Et on dit aussi les Roms roumains qui m'ont dit en France. Bien sûr, il y aura toujours des Français qui, en pensant à la Roumanie, vont dire Surin, Ionesco, Brancusi. Mais ce n'est pas assez. Et justement, la saison croisée propose des centaines d'événements susceptibles d'ouvrir plus des portes et de fenêtres. Alors, pour une meilleure découverte.
Justement, une petite sélection dans le programme très riche que vous avez pu consulter.
Théâtre à partir de lundi au Théâtre des Abbesses, plusieurs spectacles roumains et cinéma, Reflet Médicis, entre le 13 et 16 décembre, 14 films roumains à découvrir.
C'est tout?
Et bon, il y a la littérature, une tournée des traducteurs vient de commencer, et surtout, samedi, toute la journée, dégustation des vins roumains à l'ambassade roumaine dans le programme à partir de 18h30.
Ah bon, vous y serez très certainement, Matej Wiśniewski. Quelle la vôtre? C'était Accent du Monde, dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur Radio France Internationale.